Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mathilde, l'émission s'appelle Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs, c'est cette envie de, à travers les expériences de vie, d'élargir son regard sur le monde. Sur ce monde qui est divers et varié, avec différents peuples, différentes traditions, différentes cultures, différentes croyances. Donc voilà, l'idée c'est de prendre un temps pour te rencontrer, savoir un petit peu qui tu es Mathilde, et savoir comment tout a commencé pour toi, à quel moment tu as envie de voir ce qui se passait au-delà de ton pays, de ta famille, de ta culture. Donc je ne sais pas si ça fait longtemps que tu as quitté la France, parce que je crois que tu es régulièrement en Amérique du Sud. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de prendre ce temps de te rencontrer. Mathilde, à toi la parole, comment tout ça a commencé?
Merci beaucoup Alex, et bonjour. Ça fait longtemps, oui, et en même temps, peu à l'échelle d'une petite vie, en vrai dire pour ma part, donc j'ai un parcours assez traditionnel à l'école puis Sciences Po. C'est Sciences Po, à vrai dire, grâce à une invitation à étudier à l'étranger, faire des stages à l'étranger, surtout dans le parcours que j'ai pris moi de relations internationales, qui m'a peut-être invitée dans la matière à plus concrétiser le voyage et finalement rencontrer des peuples d'autres régions du monde, et notamment l'Amérique latine et le Brésil. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Depuis enfant, je me voguais à vouloir partir très loin, sûrement parce que je sentais que c'était... qu'il y avait quelque chose qui me poussait à aller au-delà de ce que je pouvais avoir accès comme forme d'apprécier, de voir, de comprendre et matérialiser la matière et la réalité ici en France. Donc quelque chose me poussait toujours à m'imaginer mieux autre part. Et donc dans ce double mouvement entre cette envie, cet appel et des études du coup à l'international, donc j'étais invitée à commencer à voyager pas mal, à travailler dans différents pays, jusqu'à ce que mon cœur m'appelle vers le Brésil notamment, puis l'Amérique latine en général, où j'ai voyagé donc sur près d'un an sans aucun contact avec on va dire des peuples traditionnels, beaucoup de voyages, de découvertes, mais encore une réserve sur ces peuples, jusqu'à ce que par hasard la seconde fois où j'y suis allée, j'ai été invitée donc à rencontrer une tribu d'Amazonie, connaître donc leur rituel, leur quotidien, leur mode de vie. Et c'est là que pour moi quelque chose a vraiment fait tilt et m'a dit de approfondir, de rester sur place, de pousser et casser un petit peu aussi ce que je croyais être et les sécurités que j'avais à l'époque de travail.
Je vais te ralentir. Donc là, tu as quel âge? Donc tu dis, à travers ton cursus scolaire, ton parcours, tu as fait différents voyages avant de te retrouver au Brésil. Et tu me disais aussi que tu sentais déjà enfant ou adolescente que tu avais cette envie d'ailleurs, cette envie d'aller voir ce qui se passe plus loin. Donc toi, c'est pas tes parents qui t'ont amené en voyage, c'est vraiment un appel que tu avais de l'intérieur.
Oui, c'est ça. Je voyageais. De temps en temps, vacances comme toute française, je pense, mais dans le lointain était un appel très jeune. Je me rappelle que je cherchais à voir comment partir dans des contrées lointaines, et je me suis rendu compte après, en connaissant les traditions donc autochtones que je côtoie beaucoup d'Amazonie brésilienne, que je dessinais fréquemment donc leur design, donc leur kené, c'est-à-dire leur vocabulaire artistique. Et donc des choses m'appelaient beaucoup, surtout sur l'Amérique latine, sans plus d'explications, parce que j'avais pas forcément d'influence sur ça. Mais donc pour situer en termes de temporalité, donc actuellement j'aurai 34 ans demain, donc j'ai voyagé pour la première fois au Brésil à 21 ans. Pour les études, j'y suis retournée à 23, où j'ai connu donc ces traditions donc autochtones d'Amazonie brésilienne, puis d'autres des régions périphériques, et donc avec qui j'ai décidé de rester, m'installer, apprendre, étudier, vivre parfois, et créer ensuite des ponts avec le monde occidental de ce à quoi ils m'ont invité à apprendre et étudier à leur côté.
Entre 23 et 34 ans, il y a eu plusieurs allers-retours entre la France et le Brésil, c'est ça? Et je crois même une association que tu as montée, que tu as créée. Donc voilà, on peut peut-être aussi parler aussi de cette partie-là. Quelle est cette association et qu'est-ce que tu faisais entre ces allers-venus?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, dans cette échelle de temps, donc il y a eu d'abord un temps, je pense, d'intégration de tous les apprentissages que ces peuples m'invitaient à vivre et en même temps un appel très naturel à me sentir à ma place à ce moment-là, au sein de leur quotidien, leur mode de vie, leur tradition, leur médecine aussi. Et la vie moi-même s'est faite puisque, sans que ce soit forcément prévu, j'ai été invitée à devenir maman, à m'installer un temps au Brésil, à ouvrir des espaces aussi, donc être gardienne d'espaces collectifs où on a appris à accueillir des peuples d'autres cultures, des artistes aussi, à convivre ensemble, à mettre en lien toutes ces connaissances, des technologies aussi pour savoir apprendre à le divulguer et apprendre à revivre en communauté. Donc les choses se sont faites assez naturellement jusqu'à ce que, effectivement, dans un des voyages avec le peuple donc, du Huni Queen, qui a été le premier que j'ai connu d'Amazonie brésilienne, quelque chose de plus grand m'a appelé dans le fait que entre le parcours que j'avais pu déjà vivre à leur côté et que je sentais que j'allais continuer à vivre et puis les connaissances que j'avais pu avoir entre mes voyages, les langues aussi que je parle, l'univers aussi institutionnel que j'ai appris à côtoyer et étudier avec Sciences Po, que une de mes missions était de faire ces ponts et de créer donc ce lien de tout format possible en fait entre les mondes. Et c'est là que m'est venue et que j'ai été invitée en lien avec différents donc leaders de différentes tribus que je consultais, avec qui on a aussi donc créé tout ce mouvement. Donc j'ai cofondé une association donc qui est née au Brésil, aujourd'hui est française. Elle s'appelle O-Organismo, ça veut dire l'organisme unifié. Et l'idée principale, c'est de réapprendre à vivre tel un organisme unifié grâce et aux côtés des peuples premiers, qui sont pour moi la preuve vivante qu'il est possible, oui, de vivre la réalité d'une autre manière, d'une manière que je pense que chez nous on a même plus l'espace et la liberté d'imaginer possible, mais qui est de fait possible et qui est comprouvé aujourd'hui scientifiquement parlant comme hautement durable en termes écologiques, alimentaires, médicinaux, éducatifs et humains, tout simplement, puisque ce qui est beau dans ces tribus, c'est que quand on est là-bas, et j'aime bien faire des échelles de comparaison, la plupart des territoires où moi j'ai pu voyager, travailler, sont d'équivalence donc, d'une capitale européenne. Et il faut s'imaginer qu'en moyenne, ce sont une centaine à voire maximum 1000 personnes à vivre et gérer ce territoire de bout en bout, à produire quelque chose de chaque micro-centimètre de ce territoire, mais pas dans le sens productif comme nous on l'entend dans notre société, mais dans une production interconnectée où tout a son sens, où le chemin des fourmis est respecté pour donner l'aliment à la plante qui va faire l'ombre à l'aliment, qui va nourrir l'esprit, qui va donner le sens à la création artistique par exemple. Et c'est ça que pour moi, ou quand j'étais là-bas, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je dis des fois, on a l'impression d'être avatar, et en même temps, c'est des humains comme nous. Donc, c'est qu'il y a forcément des petits détails que j'appelle les détails systémiques, organisationnels, au sein de la tribu, sur d'autres relations au pouvoir et à la hiérarchie, à l'autre, au travail collectif aussi, qui font qu'ils y arrivent. Mais que si on vient de la même origine, on est peut-être capable aussi, nous, de réapprendre un peu avec eux, les aider aussi avec quelques outils et adaptations qu'ils ont besoin aujourd'hui, vu les jours qu'on vit et les changements climatiques. Et donc commencer à vraiment réapprendre à travailler ensemble.
Est-ce que tu peux me parler du côté historique, hein? Parce que là, tu me parles donc des tribus, hein, qui vivent quelque part en osmose avec l'environnement. C'est peut-être ça, finalement, qui nous manque le plus aujourd'hui dans nos modes de vie complètement hors sol et déconnectés de la planète et de la terre qui nous nourrit. Et c'est peut-être pour ça aussi que le message, hein, des peuples racines, des peuples premiers, est aussi important, imprégnant et impactant, parce qu'on se rend bien compte qu'on vit dans un monde, dans un système qui marche complètement sur la tête. L'histoire du Brésil, donc quand on pense au Brésil, on pense à la forêt amazonienne, on pense aussi à la déforestation et on pense aussi à la colonisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il y a des tribus qui ont pu échapper au rouleau compresseur de la mondialisation et qui ont pu continuer à vivre de manière traditionnelle. Ou est-ce que non, c'est des fois une manière d'idéaliser les tribus d'Amazonie, et aujourd'hui elles sont aussi finalement face à ces grands défis économiques, écologiques et capitalistes?
Très bonne question. Alors c'est vrai que l'Amazonie en général, donc déjà il faut la déconstruire pour la reconstruire, puisque je me suis rendu compte que moi-même, y compris sur les bancs de Sciences Po, j'avais pas l'idée d'1% de ce que ça pouvait être en termes de réalité environnementale et humaine, du coup, par rapport à ces tribus. Et qu'est-ce qu'une tribu aussi? On a beaucoup d'imaginaire, de romantisme aujourd'hui sur les peuples premiers. Et donc, pour situer un peu, donc, le Brésil a cette particularité d'être le pays qui donc, contient son territoire national, donc la plus grande portion, on va dire, de la forêt amazonienne, qui est divisée entre différents pays frontaliers. Et ça, au niveau de son histoire donc coloniale, si on peut dire, et de ses peuples, donc le Brésil, comme le reste de ses voisins latino-américains, était sévèrement touché, donc effectivement, par différentes vagues de colonisation et de esclavagisme au sein, donc notamment des communautés autochtones. Mais ce qui est intéressant, alors moi, je me réfère l'historique du temps donc des peuples autochtones et comment ils le racontent. Donc les peuples autochtones de la région que je connais le mieux, donc aussi il faut préciser, donc c'est l'état du Acre, qui est la région frontalière avec le Brésil, avec le Pérou, excusez-moi, et qui est considérée donc comme l'une des régions donc les plus difficiles d'accès et en même temps les plus riches en termes de biodiversité, mais fragile par ce même, de l'Amazonie brésilienne, puisqu'elle a la frontière du Pérou, donc à la descente des Andes péruviennes, et au début de la grande Amazonie brésilienne. Et donc c'est une région un peu différente de ce qu'on a l'imaginaire de se voir avec les grands fleuves type l'Amazone, etc. Là, ce sont les petits fleuves qui descendent des Andes et qui nourrissent le reste du pays, et où du coup, par cette particularité géographique, elle a aussi, on est considérée comme la plus grande pharmacopée de l'Amazonie de manière générale.
Peut-être plus préservée aussi, parce que plus inaccessible.
Voilà, et plus préservée, peut-être plus inaccessible, et du fait aussi, voilà, que de là aussi, de ces médecines, de ces plantes sacrées, celles-ci ont aidé aussi les peuples à se préserver en termes de culture, de connaissances. Mais donc, pour continuer un peu cette situation générale, donc un peu plus historique, les peuples considèrent qu'ils ont eu plusieurs vagues de temps dans leur histoire. Donc le premier, c'était la vie collective, c'était la maloca, le temps où tout le monde vivait ensemble, jusqu'à ce que, oui, la colonisation arrive et les fasse rentrer dans les temps du patron, où quelqu'un s'est considéré, donc en l'occurrence nous, colonisateurs, on va dire dans ce sens, supérieur à l'autre, et donc les a inscrit un espace donc de séparation entre les humains et d'espace de pouvoir de l'un sur l'autre. Et ensuite, donc, un temps important qui s'est passé au niveau du Brésil et qui a peut-être été la deuxième vague de grande colonisation, ça a été plus récemment, on n'imagine pas en fait finalement, mais que jusqu'aux années 86, donc le Brésil était en dictature. Et ça a été une période de nombreuses violences au Brésil, notamment contre les peuples autochtones, dont de nombreux ont été attaqués donc, et interdits sous risque de réprimande forte, voire de meurtre, hein. On a parlé même à l'époque de génocide qu'on prouvait, s'ils donc exprimaient tout type de leur trait culturel, c'est-à-dire langue, peinture, couleur vestimentaire, etc. Alors que ces peuples, donc, qui vivent depuis des siècles dans la nature, n'avaient aucun autre référentiel, ne parlaient même pas portugais. Donc c'était d'une extrême violence, surtout qu'un peuple autochtone se considère vivant jusqu'à ce que sa langue reste vivante. Donc il était interdit que les parents passent aux enfants donc, leur langue. Donc il y a une rupture générationnelle très forte, très oppressive. Et c'est une des phases où il y a eu la plus grande perte de peuples autochtones dans l'histoire du Brésil, en tout cas qu'on a pu calculer, quantifier. Malgré tout, on a la chance au Brésil d'avoir encore plus de 300 ethnies aujourd'hui vivantes encore, qui maintiennent leur culture, sont en train de se repopuler, sont en train de retrouver une fierté aussi au niveau de leur tradition et mode de vie. Ils sont en train de se structurer aussi au niveau politique. On a la chance au Brésil d'avoir aujourd'hui une des avant-gardes les plus importante et fulgurante au niveau de le siège international qu'ils sont en train de prendre, donc sur les plus grands événements mondiaux qui vont de la COP, les changements climatiques. Ils ont donc pris le temps donc d'apprendre à se structurer au niveau politique, de créer un ministère des peuples autochtones, d'être respectés, légitimés. Et c'est un mouvement, en fait, ce qui est fascinant, éclaire, en fait, quand on voit l'histoire d'un peuple, puisque tout s'est passé sur des dizaines d'années récentes, en fait, que des choses que nous, on a eu des centaines, voire plus, de temps, donc, à incorporer. Et ce qui est beau, c'est de voir leur capacité d'adaptation, une compréhension du monde, des enjeux du monde, l'urgence de la planète aussi, et leur place dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on actue, donc, avec on agit avec notre association et différents partenaires pour leur laisser la place maximum pour être écoutés et nous réapprendre comment on peut voir et pratiquer ce monde d'une autre manière.
Toi, Mathilde, comment tu expliques que tu étais touchée par ces tribus, par ces peuples et que tu y consacres une partie de ton énergie, de ton temps et presque de ta vie?
Alors, je pense que la plus grande leçon que j'ai eue dans la vie et qui a... Donc, pour ma part, je pense que ça a été le fait de devenir maman. Qui a permis de connecter et donner un sens à cet appel très fort que j'ai eu dès le début, ce sens naturel aussi de me sentir à ma place avec ces tribus et ma mission aujourd'hui, puisque à observer mon enfant, mes enfants aujourd'hui, mais aussi tous nos enfants et surtout ceux de la tribu aussi, je me suis rendu compte que naturellement nos enfants et donc nous tous de base agissons sur des bases de valeurs et de relations à l'autre qui sont très similaires à ceux que les tribus préservent et maintiennent depuis des siècles et des siècles. Par rapport justement à notre système de relations, au leadership naturel, au partage, à la coopération, à la collaboration, à l'entraide, à la présence. Donc plein de petits détails que j'appelle systémiques. Qui m'ont, sous l'observation et donc la vie partagée avec mon fils à l'époque, m'a fait comprendre que oui, si ça m'appelait autant, et que aussi avoir la naturalité que tant de gens que j'ai été invité aussi à accompagner dans les tribus, ici en Europe, dans ce contact, ressentaient comme un appel de nature, qui allait au-delà du contact avec la nature, comme on la résume ici en Occident, c'est-à-dire la nature humaine. C'est-à-dire se sentir à la place, même si ces personnes, ces autochtones, ne parlent pas la langue, n'ont aucun de nos codes culturels peut-être, mais c'est quelque chose qui transcende, parce que c'est quelque chose d'essentiel, en fait, qui vient de notre essence. Et donc de voir ça en nos enfants, de voir aussi, apprendre beaucoup donc, au sein des communautés, donc, justement des modes éducationnels, donc de comment leur type d'éducation, qui est basé beaucoup plus sur l'apprentissage de toutes les tâches en tribu, bien plus qu'une formatation de matière. Justement, ils ont une éducation différenciée où tous les phénomènes étudiés sont interconnectés et sont en pratique, et sont les pratiques du quotidien auprès des parents, de toute la famille, et où, d'un coup, les enfants sont libres de découvrir et toucher à qui ils sont vraiment, et donc, du coup, de prendre leur place et de faire le leadership naturel qu'ils doivent avoir donc, au niveau de leur place sur la planète Terre et dans leur tribu. Et donc tous ces petits détails, de voir ça, ou combien ça impacte sur des enfants, en tout cas là-bas, libres et autonomes, dès le plus jeune âge, en fait, où chacun prend soin de l'autre, où on les sent aussi en sécurité d'eux-mêmes, en confiance avec les autres, et on voit que ça fonctionne. Je pense que j'ai jamais vu des sociétés où si peu on entendrait un enfant pleurer, faire un caprice. C'est des choses qui n'existent même pas, en fait. Ce n'est quand il a faim, il tombe, mais voilà. Et donc, ces comparaisons et le vivre en pratique aussi avec mon premier fils, puis là, mon second, que j'emmène partout. Moi, en tout cas, je sais que ça peut être bon et riche d'apprentissage, c'est-à-dire dans ces tribus, dans des endroits collectifs, dans mon travail aussi, puisque je vois pas pourquoi on devrait tirer nos enfants de notre travail qui est pour les futures générations, qui est pour le changement planétaire. C'est eux qui devraient être devant tout ça, à nous enseigner et puis à apprendre avec nous. Et c'est comme ça que la tribu fait, et donc c'est comme ça que, en tout cas, moi, je me suis rendu compte de pourquoi je pense que c'était si logique et naturel pour moi de me sentir chez moi et de faire mon maximum auprès de ces peuples pour faire valoir leur vision, leur mode de vie, parce que c'est pas que du blabla, c'est pas que la théorie philosophique, spirituelle, c'est de la pratique avant tout. Et c'est ça aussi qui est important, c'est voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements spirituels, chamaniques, d'intérêt sur la médecine, mais il faut pas oublier que ce sont qu'une part de toute une pratique quotidienne que ces peuples maintiennent depuis des siècles et des siècles, et savent pourquoi ils maintiennent, et c'est pour ça que ça se maintient, parce que c'est pratico-pratique et c'est légitime. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens sentent l'appel aussi, et qu'on est heureux de pouvoir du coup ensemble, en tout cas avec ces communautés, de faire ce pont avec les peuples.
Sujet que j'ai pas du tout le temps d'aborder encore, notamment celui des plantes médecine, pour reprendre un petit peu ce qui est en train de se passer ici en Europe, avec un vrai phénomène de mode que j'ai vu arriver avec d'abord les cérémonies cacao, et là maintenant tout ce qui est plantes. Voilà, je veux bien que tu donnes un petit mot, voilà, quelle est ta vision de ce que les plantes, déjà qu'est-ce que c'est qu'une plante médecine, peut-être commencer par ça, le définir. Et qu'est-ce que tu penses de... Je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle ou pas ? Est-ce que c'est réellement quelque chose, une mission qu'incarnent ces peuples pour venir transmettre ici à l'Occident ? Enfin voilà, je veux bien que tu nous parles de toi, ta vision des plantes médecine.
Alors dans les communautés traditionnelles, du moins celles que je côtoie le plus en Amazonie brésilienne, donc plantes médecine... Donc serait sous cette dénomination donc les plantes que ces peuples considèrent avoir un pouvoir de guérison de tout type de maladies physiques, émotionnelles, spirituelles, sachant que selon eux il existe et ils ont connaissance et ont des plantes médecine pour tout type de maladies humaines qui existent sur la planète actuellement. Donc c'est très vaste comme sujet, surtout quand on parle, donc quand je dis la pharmacopée de l'Amazonie, donc c'est considéré plus de 90 000 plantes en général, donc qui vont des simples thés aux élixirs, et donc c'est un univers très grand, très large, voilà, à partager. Mais il est vrai que aujourd'hui un mouvement de mode, et non seulement en Europe mais partout dans le monde, commence à étudier, s'intéresser, à pratiquer donc une partie de ces plantes. Donc tu parlais du cacao. Le cacao, c'est une tradition de notre région qui ne sont pas l'Amazonie brésilienne, donc je vais peut-être pas me positionner sur ça. Nous, celles qui sont assez connues, par exemple, on parle beaucoup des médecines du tabac, des dérivés du tabac, et notamment par exemple la médecine du râpé qui vient de cette région qui est l'état du Acre en Amazonie brésilienne, qui a un tabac qui est pilé avec des écorces d'arbres sacrés et qui aurait donc des bénéfices non seulement spirituels, énergétiques, donc de purification, nettoyage. Et ça, on peut voir dans beaucoup de traditions du monde que le tabac toujours était associé à la purification. Mais au-delà de ça, c'est une plante médecine, si on peut l'appeler, donc qui a des propriétés donc de tirer tout ce qui serait donc la surinformation mentale, ce qui est une grande maladie de notre siècle, donner un peu plus de focus, concentration, tirer aussi donc les maux de tête, Donc ces différentes propriétés, par exemple, de cette médecine-là, donc le râpé, que beaucoup plus de personnes sentent l'appel de connaître parce qu'elles sont aussi en appel avec beaucoup de ressentis qu'on vit aujourd'hui en Occident. D'autres plantes médecines aussi sont connues et reconnues scientifiquement pour aider notamment donc, dans la guérison de maladies comme la dépression, les addictions. Donc c'est là aussi que je pense qu'il y a comme une connexion entre un appel qui grandit face à la crise humaine que nous on vit dans notre société et qui nous fait pousser, chercher des solutions au-delà, puisqu'on voit que notre système actuel ne remplit pas, ne répond pas à nos manques de sens de manière générale, alors que ces peuples qui ont des plantes médecines qui naturellement peuvent nous aider à soigner de toutes ces maladies, qui peuvent aussi naturellement nous aider à donner du sens à notre vie, à notre place sur la planète Terre et en relation avec d'autres personnes comme ces tribus le vivent. Et ça, c'est aussi en plus en lien avec des visions, des prophéties que ces peuples ont depuis des siècles et des siècles, qu'un jour, ce serait l'heure de faire le pont et de mettre les choses en commun, leur connaissance avec nos besoins et vice-versa. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est un mouvement intéressant, mais qui de fait, comme tu l'as dit, peut être comme tout, hein, mal utilisé, être réapproprié, être détourné aussi, puisque comme toute chose, toute plante, elle a un pouvoir, toute plante médecine encore plus. Donc voilà, donc effectivement, il faut faire attention donc où on prend l'information sur ces univers qui sont très peu connus par nous occidentaux, où je peux le dire, il y a très peu d'informations encore complètes sur tout ça, puisque ce sont des traditions orales qui les connaissent. Il n'y a jamais eu d'écrit sur ces plantes qui sont utilisées pourtant depuis des milliers d'années par ces peuples.
Mais c'est ça qui est fascinant aussi sur l'usage des plantes, parce que bon, les plantes, nous, on en a aussi. C'est vrai que dans les pharmacopées, dans la pharmacie, la plupart des médicaments sont faits à partir de molécules de plantes isolées. Nous, ici, on a tendance à avoir une démarche très scientifique. Là, j'entends que c'est plutôt une démarche ésotérique, voire un peu magique. Et pourtant, les résultats sont là. Donc, d'où vient l'information ? Nous, on a l'impression que la science a réussi à comprendre quelles molécules pouvaient avoir quelle et quelle action sur quelle et quelle partie du corps humain. Mais là-bas, j'entends que ces peuples des forêts ont la connaissance. Mais d'où vient-elle ? Et c'est là où j'ai l'impression que dans la légende, on me dit que c'est les plantes qui parlent au maestro, qui parle au chaman pour leur expliquer que telle plante ou telle association de plantes va pouvoir soigner tel ou tel mot. Et ça, c'est complètement dingue.
Effectivement, donc en tout cas, toutes les traditions que j'ai pu côtoyer, donc entre moi, les peuples que je connais davantage, Huni Queen, Shanna, Wanokekoi, Yawanawa, Shipibo, côté péruvien, en tout cas, donc cette région du bassin amazonien des plantes médecines, connue comme aussi donc la fameuse ayahuasca, râpé, donc toutes les alchimies de préparation de ces plantes, y compris aussi celles par exemple comme le fameux venin, donc des flèches pour chasser, qui à quelques degrés près passe d'une médecine à un venin mortel. Donc ces plantes ont été comprouvées donc d'usage millénaire. Il y a des preuves donc que ces communautés les utilisaient il y a des milliers d'années. Et que de fait, donc si on leur demande, et c'est ça le plus fascinant, puisque donc il n'y avait pas de recette à l'époque, si ce n'est que ils considèrent donc d'avoir reçu donc toute l'alchimie de préparation de chaque degré, de chaque mélange, puisque même l'ayahuasca, le râpé sont des mélanges. Donc, et puis il existe bien d'autres, des bains d'herbe, des défumations qui sont en fait pareil, des alchimies très pointues quand on les voit les produire, qui considèrent connaître donc depuis des siècles et des siècles, reçues par les plantes. Donc ils disent que c'est les plantes qui ont été données aux ancêtres l'information de comment se préparer, de comment le partager et de quelle serait leur place et mission non seulement au sein de leur village pour maintenir la culture vivante, mais de l'humanité pour lui redonner du sens. Donc, à parfois réfléchir, revisiter des choses un peu difficiles de chez nous, puisque ces plantes, dont l'ayahuasca, travaillent sur un niveau physique, émotionnel aussi et spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, l'ayahuasca a des bénéfices donc, de régénération cellulaire de n'importe quel type cellulaire, y compris neuronal, qui a été comprouvé scientifiquement. Mais ce n'est pas ça qui va nous guérir, c'est sa conjonction avec l'expérience spirituel et émotionnel, et tout le travail au moment où on va les recevoir, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est pas des plantes qu'on prend à n'importe quel moment, n'importe quelle manière. C'est sous un rituel sacré, hein, accompagné avec des personnes expérimentées depuis des siècles et des siècles, en tout cas qui le reçoivent de cette manière-là, avec des chants qui sont passés de génération en génération, qui sont des chants médicinaux, des fréquences vocales qui viennent toucher des émotions, des ressentis, et qui là complètent le travail donc de la biochimie de la plante médecine, on va dire, par une expérience donc de pleine conscience, et qui vient nous faire réfléchir sur justement des points un peu plus difficiles de notre vie et les patterns qui nous ont invités à peut-être les vivre, les revivre et les refaire. Et après, moi, ça m'a beaucoup aidé à donner un sens à ma vie à court, moyen et long terme. En regardant, en fait, pour moi, c'est comme un peu prendre une navette spatiale, en fait, de notre vie. C'est voir toute notre vie avec la distance de l'observer et de l'observateur en même temps. Où on est le créateur de tout ça. Et donc, ça permet de donner un sens, un ordre des directions où la plante, justement, là, vient nous dire. Écoute, regarde, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà averti sur plein de choses de la réalité. En fait, pour moi, c'est ça. Elles viennent juste amplifier ce que la réalité vient de nous dire, en fait. Et qu'on ne regarde pas assez, suffisamment, avec assez d'attention. Mais au quotidien, on est bourré de signes de la nature humaine et de l'univers nous indiquer les chemins à prendre. Et donc là, on a tout un univers de plantes qui viennent amplifier ces signaux pour qu'on se rende compte et qu'on se les approprie. Pour aller, en fait, comme prendre un tremplin de la réalité qu'on a besoin de vivre dans tous les cas, dans cette incarnation, tous ensemble.
Mathilde, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.